pas très encouragé par le public du Central de Roland-Garros.
Merci beaucoup Eric de nous faire vivre cette rencontre peut-être historique. 19h10 à Paris.
Radio G 101.5 FM.
Bonjour, je suis Mélanie Alétru, directrice du Chabada, la salle des musiques actuelles d'Angers. Le Chabada, en 2024, fête ses 30 ans. 30 ans d'histoire, de musique et des milliers de groupes programmés. Nous vous proposons de découvrir l'histoire de cette salle au travers d'une mini-série de 3 podcasts, Petite Histoire et Grande Histoire du Chabada. Écoutez-nous à partir du mois de mars sur les plateformes de podcast, dans les programmes de Radio G et de Radio Campus Angers. Vous trouvez toutes les informations sur notre site internet. Ce programme est soutenu par le PNV, Programme d'État. Bonne écoute à vous et à bientôt au Chabada.
Do It Yourself, tour d'horizon des activistes de la scène angevine. Le 3e épisode de cette série de podcasts dédiée aux 30 ans du Chabada, le vendredi 31 mai à 17h sur Radio G 101.5 FM ou radio-g.fr.
Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
Nouvelle semaine d'agitation locale sur le 101.5 FM et il va s'en passer des choses cette semaine puisque vous le savez, demain il y a la flamme olympique qui passe du côté d'Angers, donc on va essayer de mobiliser nos rédactions, alors pas seulement celle de Topette mais également celle de Dans mon tiroir pour couvrir l'événement au mieux. On va aussi tenter d'envoyer Nolwenn et puis bien évidemment on va continuer nos actualités locales, culturelles également. D'ailleurs jeudi, autre événement, nous serons en direct depuis les Folies Angevines et ce soir on sera un petit peu en musique et puis en culture, en histoire même. On va recevoir Festen tout à l'heure qui sera on stage la semaine prochaine. Mathéo va lui poser quelques questions et on est aussi avec Sylvain Bertoldi, le directeur des archives patrimoniales, pour évoquer des ouvrages qui sont en cours, qui sont parus, d'autres qui vont paraître prochainement, et puis des expositions, de nouvelles arrivées dans les archives. Mais tout ça, c'est au cours de cette émission qui commence.
Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
Qui commence même plus précisément avec le traditionnel point sur les actualités locales avec toi, Nolwenn. Bonsoir Nolwenn.
Bonsoir.
Une professeure agressée au couteau dans un lycée du Maine-et-Loire.
Les nombreux gendarmes ne sont pas passés inaperçus ce lundi matin à Chemillé-en-Anjou. Quelques minutes plus tôt, une agression à l'arme blanche s'était produite au lycée de Lierome. Un élève avait donné un coup de couteau sur le visage de sa professeure d'anglais. L'agresseur a ensuite pris la fuite en passant par la fenêtre, mais il a rapidement été interpellé par les gendarmes, puis mis en garde à vue. Âgé de 18 ans, il n'était pas connu des services de la justice ni de la police. Selon son établissement, il n'avait pas été relevé à un quelconque comportement suspect. L'enseignante a-t-elle été hospitalisée, mais ses jours ne sont plus en danger. Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte.
Un nouveau traitement pour les femmes atteintes d'un fibrome utérin.
C'est une première régionale depuis 2023. Le professeur Pierre-Emmanuel Buet du CHU d'Angers teste une nouvelle alternative thérapeutique. Elle est basée sur la radiofréquence et sert à éliminer les fibromes utérins, une tumeur bénigne chez la femme. Le principe est simple, un électrode est posé sur le fibrome, il diffuse de la chaleur et le détruit. Le traitement est efficace à 80%, 6 à 9 mois après l'intervention. Il permet donc d'éviter une grosse opération par colioscopie ou césarienne et il permet aux patientes une meilleure récupération. Alors l'expérience a été convaincante et le CHU s'est donc doté du matériel nécessaire pour pouvoir le proposer à davantage de patientes. Pour le moment, une vingtaine de femmes ont pu en bénéficier.
Qui va allumer le chaudron de la flamme olympique, Nolwenn ?
Le comité d'organisation des JO n'avait pas dévoilé son nom, mais c'est bien Thomas Joly, ancien directeur du théâtre Le Quai à Angers, qui allumera le chaudron. Alors ce sera demain soir, place de la Rochefoucauld. Et donc c'est un grand défi pour celui qui met également en scène la cérémonie d'ouverture et de clôture des Jeux de Paris 2024. Alors ce samedi, les noms de tous ceux qui porteront la flamme ont également été annoncés. Et parmi ceux qui n'avaient pas été dévoilés, l'influenceuse Juste Zoé ou bien l'athlète paralympique Claire Supio.
Précisons qu'on parle bien d'Angers. Le ciel sera-t-il très nuageux justement au-dessus d'Angers demain ?
Oui, il sera très nuageux, seulement quelques éclaircies sont prévues en fin d'après-midi. Les températures, elles, seront comprises entre 13 et 19 degrés.
Bon, pour l'infotrafic de demain, on a déjà quelques idées de comment ça roulera sur Angers, mais on aura le temps d'en reparler d'ici là. En attendant, accueillons notre premier invité de la soirée.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Sylvain Bertholdi.
Bonsoir.
Le monsieur patrimoine d'Angers, de son agglomération et même peut-être un petit peu du département. En tout cas, j'imagine que la curiosité n'a pas de limite d'un point de vue historique pour ce qui concerne notre belle région et notre belle ville. C'est un petit peu subjectif peut-être comme présentation, mais en tout cas, vous êtes directeur des archives patrimoniales d'Angers. On est bien évidemment au repère urbain essentiellement. C'est là-bas que sont situés les services Angers Patrimoine. Et justement, du patrimoine, il en est question avec des expositions. Alors, on parle d'une exposition sur l'hygiène, mais aussi le vélo, peut-être en lien avec les Jeux Olympiques.
Hein, par hasard.
Peut-être. Oui. Et tout à l'heure, on parlera des nouveaux arrivants, puisque la collection continue sans cesse de s'augmenter. On parlera aussi des livres. Alors, il y a Les Premières Fois à Angers, qui est déjà paru en automne 2022, et un autre, Angers, Mémoire d'une ville de 1850 à 1950, au travers du récit d'un photographe, mais ça va arriver prochainement, on a le temps d'en reparler au cours de cette émission. Peut-être avant tout ça, Sylvain, un point sur les expositions en cours, puisqu'il y en a une qui va s'arrêter dans pas longtemps au repère urbain.
Oui, alors on peut voir encore actuellement donc l'hygiène à Angers, ça s'intitule « Des bains de Maine à la salle de bain ». Et donc on voit combien il a été assez difficile d'ailleurs à Angers d'obtenir des bains publics, les bains douches. On ne les a eus qu'en 1924. Donc en fait l'hygiène a longtemps été considérée comme une affaire privée. Et donc la municipalité ne souhaitait pas intervenir. Bon, elle l'a quand même fait. Et puis il y a eu les deuxièmes bains douches qui sont mieux connus des Angevins, les bains Victor Hugo, donc en 1934. Alors on montre un peu l'évolution et puis qui faisait construire une salle de bain. Est-ce que dans le lotissement du Lutin des années 20, on faisait construire des salles de bain? Ben, finalement non, c'était pas encore très à la mode, donc on avait éventuellement un cabinet de toilette, et même des WC sans eau courante. Donc vous imaginez, un WC avec clapet, je n'entre pas dans le détail.
C'est étonnant comme sujet d'exposition, c'est vrai qu'on s'y attend pas. Moi honnêtement, c'est pas un sujet que j'aurais imaginé voir au repère urbain.
Un sujet de vie quotidienne quoi finalement. Et on a pas mal de documents donc pour évoquer la vie quotidienne et des objets aussi. Donc ça nous donne des idées.
Notamment les toilettes par exemple, non? Ou des bains, des accessoires?
Non, on avait des savons qui avaient été produits à Angers par exemple, des boîtes, des publicités, un thermomètre d'un fabricant d'objets d'hygiène et constructeur de salles de bain, là, des choses comme ça.
Donc voilà. Ça c'est l'exposition qui est en cours mais qui va incessamment sous peu être remplacée.
Oui, d'ici une dizaine de jours et par le vélo. Alors Angers et le vélo, c'est une histoire d'amour qui est longue, hein, qui remonte à 1868 quand même, à la première course de vélo qui a eu lieu le 10 novembre, où donc à Écouflant.
Sur l'hippodrome?
Exactement.
Ah oui.
Eh oui, au champ de course, à titre d'intermède, de divertissement. Alors il y a une petite course de vélocipède. Donc en 1868 tout de même, et puis en 69, une course dans la ville à partir du rond-point des Magnolias, qui est la place André-le-Roi. Et à partir de là, bon, beaucoup se sont intéressés aux arts et métiers, notamment des ingénieurs, à la construction de vélocipèdes. Et on a eu jusqu'à une dizaine de marques qui ont été fabriquées à Angers quand même. Donc dans l'espace d'un peu moins d'un siècle, entre 1880 et le début des années 60.
1964, je crois, le départ du dernier constructeur.
Oui, voilà, exactement. La fermeture de Continental. Et Continental, ça n'était donc pas des pneus. À Angers, c'était une marque de vélo, et une marque de vélo qui a subsisté depuis le début du XXe siècle jusqu'à 1964, qui était fabriquée derrière la place Ney, à l'emplacement du Carnet actuel.
C'est des vélos, j'imagine, des marques de vélos qu'on ne trouve plus aujourd'hui.
Mais non, ce sont des vélos de collection, effectivement. Alors, quelquefois, on trouve, par exemple, on ne citera pas finalement de nom, mais on les a tous dans la tête, des plaques, vous savez, des plaques de vélo sur lesquelles on a posé son nom et il y avait la marque du vélo dessus. Alors, on peut trouver, donc, il y avait Heights, il y avait La Violette, il y avait Langevin, All Right. Auger, Idol, donc Continental, Alésia, Vincent Fils, donc une dizaine de marques quand même. Ah oui, c'était assez remarquable pour une ville quand même qui n'avait en 1900 que 85 000 habitants.
Ne serait-ce que par au travers des noms des marques des vélos, Mathéo, on replonge dans l'époque. Hein, on se voit avec la casquette et puis vraiment comme à l'époque.
Oui, c'est vrai. Même si je ne connais aucune de ces marques, c'est vrai que le nom fait vraiment typique de ces années-là. Et puis c'est vraiment intéressant d'avoir justement une période qui est maintenant révolue, qui a complètement changé avec l'accès à de nouvelles marques de vélos peut-être plus bas de gamme aussi.
Et par principe, je demande à Nolwenn, puisque c'est Auger, son nom de famille, rien à voir avec
Auger. A-U-G-E-R.
Ah, pas de chance, moi c'est O-G-E-R.
Oui, elle a failli découvrir quelque chose d'incroyable. Peut-être un mot sur le Vélodrome, puisque demain on sait que c'est de là-bas que partira la flamme olympique. Le Vélodrome, donc, comme son nom l'indique, c'est un circuit de vélo. Peut-être un petit point sur l'histoire au travers de l'exposition aussi concernant le Vélodrome.
Oui, alors là le Vélodrome est dû à l'activité, vraiment la grande efficacité des associations angevines. Deux principales associations de cyclistes d'Angevins qui sont nées entre 1875 et 1895 et qui ont réuni leurs forces pour construire un bâtiment privé. Ce n'est pas un bâtiment municipal. Donc le Vélodrome est une construction privée qui a été inaugurée en 1922 qui a connu des fastes incroyables et que pourrait raconter, je l'ai figurez-vous au hasard des choses, hein. Rencontrer cet après-midi Joël Gaudin, dont les parents étaient concierges, ont longtemps été concierges du Vélodrome, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite des établissements sportifs de Belle-Baye. Et donc, il y avait non seulement du vélo, mais aussi de l'athlétisme, de la gymnastique, des manifestations de voitures, du hockey sur gazon, au milieu du site.
Un site qui continue à vivre et qui va continuer à vivre demain. Peut-être juste une petite parenthèse aussi par rapport au Tour de France. La première édition est passée sur Angers. On peut peut-être citer l'année
1903.
Oui, quasiment.
Et le contrôle était à ce qu'il y ait l'hôtel d'Anjou actuel.
Voilà.
Et exactement même à la salle de restaurant Odorico.
Précisément, voilà.
Oui, c'était le café des sports, hein, comme par hasard. Voilà.
On pourra mettre une petite plaque pour s'en souvenir. Un autre point, alors c'est pas tout à fait en lien avec l'exposition, mais pardon, il y a la collecte des archives du sport en ce moment. Ça, c'est à l'échelle nationale, mais
c'est une bonne transition
à tout ça. Hein.
Oui. Alors à l'échelle nationale, la direction, le service interministériel des archives de France a lancé une grande collecte des archives du sport, comme elle avait lancé une grande collecte des archives de la Première Guerre mondiale. Et donc nous y participons, et donc j'appelle tous les clubs qui voudraient préserver leurs archives et les faire connaître ensuite à nous les déposer ou donner. Et donc les particuliers aussi, les amateurs, et d'ailleurs beaucoup de personnes ont déjà mordu à l'hameçon, puisque ça a été lancé sur notre site internet et puis dans le Courrier de l'Ouest et sur les réseaux sociaux aussi, Instagram et Facebook. Et donc là, on a des prêts de photographies intéressantes de particuliers qui étaient au SCO, qui étaient à la section hockey, qui étaient, on fait partie de la première association sportive féminine, Stella Sport, créée en 1921. Donc voilà, on enrichit notre photothèque et on fait appel à toutes les bonnes volontés pour continuer.
Et dans quelques instants, on va parler des archives aussi qui continuent à rentrer au fur et à mesure du côté de Angers Patrimoine, au 35 boulevard du Rhône, me semble-t-il, le repère urbain. C'est
exact.
Bien ça, Sylvain Bertholdi.
Oui, entrer dans le jardin des Beaux-Arts, magnifique.
C'est magnifique, c'est très beau. On vous conseille, quand il y a du soleil ou quand il n'y en a pas non plus, allez-y, du côté du rue. On va faire une première pause musicale. Alors non, on n'écoute pas encore Feisten, mais on va plutôt écouter d'abord Joanne au Joanne et Si tu chantais, et après on revient tous ensemble sur le 101.5 FM.
Est-ce que tu crois qu'un jour le monde deviendra sourd? Est-ce qu'on fera tomber nos masques de velours? Pourquoi c'est si facile de s'envoler la nuit alors que dans la vie je danse dans l'ennui? Est-ce que tu crois qu'un jour on fera l'amour? Est-ce qu'on peut oublier qu'on s'aimait toujours? Pourquoi dans nos cauchemars on court au ralenti alors qu'on voudrait bien s'enfuir très loin d'ici? Et si tu chantais,
si tu.
Et si tu dansais,
si.
Et si tu dansais. Sécheront les mers partout sous le soleil. Quand crieront les sirènes, est-ce que j'aurai sommeil? Allongé sous un ciel sans même une hirondelle. Quand rougira la grêle, est-ce que j'aurai sommeil? Si tu pouvais rien qu'un instant, rire et redevenir.
Et si tu chantais de Joanne au Joanne sur le 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette sur Radio G.
Nous sommes donc toujours au 35 boulevard du Raronnet avant d'être avec Festen tout à l'heure pour s'envoler en musique, en poésie, avec Mathéo aussi qui lui posera les questions. Elle est avec nous en studio. Mais avant tout ça, on est toujours avec vous, Sylvain Bertholdi, directeur des archives patrimoniales de la ville d'Angers. Donc, positionné, le siège social est au 35 boulevard du Raronnet, au repère urbain, le rue, hein, c'est derrière dans le jardin du musée des Beaux-Arts. On a évoqué les expositions, alors celle qui est encore en cours jusqu'à quelques jours, sur l'hygiène, les bains publics dans la ville d'Angers, celle qui va venir sur le vélo à Angers. Alors on a eu quelques informations croustillantes qui nous ont donné envie. Maintenant, on va parler aussi des archives qui arrivent au fur et à mesure, puisqu'il y a des nouveaux arrivants. Alors c'est assez étonnant, puisqu'on parle du garage Peugeot, par exemple, qui était routière. On parle voilà des associations qui lèguent leurs documents. Première question, Sylvain, quel type d'archives on attend? Qu'est-ce qui est croustillant à recevoir? On prend tout?
On ne prend pas tout, non, bien sûr. Et puis pas forcément croustillant non plus. Mais tout ce qui est représentatif de la vie angevine. Donc, tout ce qui fait la vie, c'est quand même large, évidemment. Mais par exemple, on prendra des archives associatives. Mais dans ces archives associatives, comme pour les archives administratives, on fera un tri. C'est-à-dire qu'on ne gardera pas les petites factures, les archives de gestion courante. Mais on gardera tout ce qui est archives PV, d'AG, de conseil d'administration, documents budgétaires récapitulatifs, livres de compte récapitulatifs, les documents de communication, les dossiers de réalisation de manifestations aussi. Donc voilà, ça fait pas mal. Et puis bien sûr, les photographies, des films éventuellement. On a une section photo, enfin on en reparlera, qui est importante. Donc là, récemment, on a eu des documents extrêmement variés. Donc vous parliez du garage Peugeot, et là c'est tout récent, c'est date d'il y a deux jours, trois jours. Donc des albums de photographies sur le garage, la concession Peugeot qui se trouvait au 9 rue Thiers, qui a été remplacée par un immeuble contemporain, puisque la concession Peugeot est dans la zone d'activité Saint-Serge depuis le milieu des années 1970. Ce sont là des documents qui montrent l'évolution des bâtiments, donc c'est intéressant, depuis 1934 jusqu'à 1957. Et puis nous avons eu un dossier sur le docteur Maurice Fresnaud, qui a été le fondateur du ATL.
Le ATL qui est ?
L'université angevine du temps libre, donc pour tous ceux qui, à partir de 50 ans, souhaitent diversifier leurs activités. On a eu aussi le groupement d'entente commerciale d'Angers et du Maine-et-Loire. Tout ce qui est un petit peu dans le commerce, c'est pas l'association Les Vitrines d'Angers, mais c'est une association voisine. Peut-être plus inattendu, mais ça fait partie de la vie, une entreprise de marbrerie funéraire qui se trouvait 140 rue La Révelière nous a donné tous son fonds d'archives avec les registres de clients, d'entretiens, de la correspondance, des dessins de réalisation de caveaux, de chapelles néo-gothiques. Donc ça peut être assez artistique aussi. Donc là, c'est intéressant. On n'avait pas du tout de fonds de ce type de commerce, d'entreprise. Et puis donc, si je reviens aux associations, nous avons eu l'association Éclat. Alors Éclat, c'est échange culturel, non pas comme UATL, mais de création littéraire, artistique, technique et scientifique. C'était une association qui a été très active donc dans la décennie 2015. Et puis récemment, on m'a proposé quelque chose de tout à fait original. Ce sont des instantanés photographiques de l'école maternelle de la rue Parcheminerie à Angers, mais alors pas de 1980, d'avril 1906. Donc une personne qui était la directrice de l'école maternelle, Madame Cazot, qui avait l'esprit assez ouvert et aux nouvelles technologies de l'époque, parce que la photographie dans l'enseignement n'était pas encore très très développée. Elle a fait faire un reportage des bambins qui font toutes sortes de choses. On voit quel était le programme de l'époque. Donc c'est très intéressant et c'est rare. Voilà, et puis sinon nous avons eu des photographies de la fête des vins de France, une série de faire-part de mariages pour les années 1880-1968. Donc c'est extrêmement varié et beaucoup de photographies qu'on nous prête et donc que l'on numérise quand les personnes souhaitent garder les originaux.
Alors qu'est-ce qu'on en fait tout ça quand il n'y a pas d'exposition, quand ça ne part pas sur une exposition? Et ben on en fait des ouvrages, par exemple ce beau livre jaune. Alors on en a déjà parlé, mais on peut le rappeler brièvement. Les premières fois à Angers, c'est vous qui l'avez commis, je ne sais pas comment on dit, qui l'avez écrit,
on peut dire ça, écrit. Oui.
Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, ça parle de quoi les premières fois à Angers?
Alors, ce sont tous les débuts, finalement. Quand on voit, quand on se promène dans la rue, on dit, tiens, on a un trottoir, là, mais à quand on remonte les trottoirs?
Le premier feu rouge aussi, 1953 ou 54, je crois.
Voilà, exactement. Oui. Donc, des choses comme ça. Alors, c'est de tout, depuis le premier aérodrome jusqu'au premier théâtre, au premier cinéma, la première braderie, le premier café, Alors, c'est difficile de trouver les premières fois parce qu'on n'a pas toujours les documents, évidemment, qui l'atteste. Pour le premier café, en tout cas, on a un témoignage en 1693, donc c'est quand même assez tôt. Et puis pour le chocolat, alors le chocolat c'est peut-être un peu plus tardif, c'était moins répandu, c'est 1771.
Oui, moins tardif, ça dépend, l'échelle temporelle qu'on prend, hein, c'est quand même assez loin dans le temps.
C'est déjà assez loin néanmoins, oui. Mais à l'époque, c'est vrai que le chocolat était, par exemple, réservé quelquefois aux banquets prestigieux qui étaient donnés à l'époque.
C'est intéressant parce que souvent, aujourd'hui, on entend parler c'est le dernier ceci qui est l'agglomération, cela. Mais avec l'ouvrage, on voit les premières fois quand c'est arrivé et ça nous permet de voyager à travers le temps. Alors, on va parler maintenant du prochain qui arrive enfin maintenant dans quelques instants. On fait juste un petit tour en balade avec Camille, on prend le vélo.
Continental.
Voilà, le Continental. Et puis, on va du côté de la vélo française et on revient tous ensemble.
Envie de partir en vadrouille? Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble faire du vélo sur la vélo francette. Mais déjà, la vélo francette, c'est quoi? C'est une véloroute qui relie La Rochelle à Ouistreham et qui passe par le Maine-et-Loire. Nous, la portion qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Angers, le Lion d'Angers. Uniquement sur une voie sécurisée, ce chemin longe la rivière Mayenne sur un peu moins de 30 km. Monte sur ton vélo, on va les faire tranquillement. Le but est de se balader, de profiter du paysage et de respirer l'air pur de la campagne angevine. Au départ du parking Rochefoucauld, nous longeons le CHU pour emprunter la célèbre véloroute. Le cadre est vraiment sympa. Nous suivons l'eau, puis passons près de l'île Saint-Aubin. La route est plate, le revêtement agréable et l'air est doux. En face, nous apercevons Cantenay-Épinard. Puis, nous arrivons au bord du port de Montreuil-Juigné. On passe le camping, une odeur de vacances flotte dans l'air. À la sortie, nous avons de nouveau droit à une jolie vue sur le port de Feneu et de sa guinguette Port Albert. Arrivé à Grenneville, le chemin n'est plus très long. On entre dans un petit port de plaisance. L'ambiance est une fois de plus estivale. On passe lentement le port et on décide de faire une pause au soleil. On observe les bateaux passer l'écluse et on échange un temps avec l'éclusière qui nous conte son métier. Il ne nous reste que quelques coups de pédale pour arriver au Lion d'Angers, en selle. D'un coup, nous bifurquons dans une forêt. C'est le parc départemental de l'Île-Briand, ancienne ara nationale. Après avoir descendu une côte plutôt abrupte, nous voilà longeant l'hippodrome. Puis, nous apercevons les premières maisons du Lion d'Angers. Nous voilà arrivés, félicitations! Pas encore rassasié? Pour ton information, il ne reste qu'environ 30 km pour rejoindre Château-Gontier. C'est une très jolie ville, et les villages traversés pour y arriver valent le détour. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous!
Ah, j'ai oublié de préciser que tout à l'heure, on aura la flashette aussi avec Angelina qui nous fera un petit récap humoristique de l'émission de jeudi dernier. Alors souvent, c'est Mathéo qui en prend pour son grade. On espère que cette fois-là, ce sera encore le cas. Mais avant tout ça, on retrouve Sylvain Bertholdi, directeur des archives patrimoniales. On évoquait ensemble les ouvrages. Alors on parlait des premières fois à Angers. Ça, c'est pour celui qui a été édité, qui existe déjà. Pardon ?
En 2022.
En 2022, automne 2022, et en automne 2024 devrait sortir Angers, mémoire d'une ville. Alors là, c'est au travers des photos quasi uniquement. Il y aura même un récit, il y a un fil rouge au travers des archives d'un photographe.
Des archives inédites, effectivement, des archives d'un amateur qui était professeur et instrumentiste d'alto. À la Société des Concerts Populaires d'Angers, à l'Orchestre du Théâtre. Et donc, il avait un appareil photographique et de 1897 à 1920, il a fait, c'était à cette époque-là, sur plaques de verre, c'était des plaques stéréoscopiques qu'on pouvait voir avec un appareil à lunettes pour les voir en relief. Et donc, j'en ai choisi aux 70 environ, sur un total de 252 photographies que va comprendre le livre, et donc qui est destiné, alors ça s'intitulera Angers, mémoire d'une ville, 1850-1950, pour mettre en valeur justement des fonds iconographiques qui ne sont pas très connus. Donc aux archives municipales, enfin patrimoniales, et qui donc seront aussi mises en ligne à terme.
Alors qu'est-ce qu'on découvre là ? Est-ce que au travers de cet ouvrage, on pourra voyager vraiment dans le temps et vivre à Angers comme à l'époque ?
Absolument, vivre à Angers, c'est exactement le terme qui nous convient ici. Puisque c'est ce célèbre magazine municipal depuis 1977, dans lequel j'écris des articles. Alors, il y aura 12 chapitres. D'abord, la famille Alain, c'est A2LAIN chez elle. Donc, on les voit donner une leçon de piano, jouer aux cartes, enfin faire des choses vers 1900. Henri Alain, un regard sur la ville. Alors là, c'est le reportage photographique qu'il a réalisé. Et puis, plusieurs chapitres. Donc, il y aura habiter, apprendre, travailler, acheter naturellement, vivre, prendre l'air, se cultiver, faire du sport, et puis on est à Angers, il ne faut pas oublier prier, surtout autrefois, et puis être en fête, parce que les Angevins adorent la fête, et en général tout le monde adore la fête.
La soupe angevine avec modération.
Oui, alors là il n'y aura pas de photos de dégustation de soupe angevine. Et alors chaque chapitre sera introduit justement par deux vues stéréoscopiques, enfin deux vues d'Henri Alain sur le thème en question.
Bon, ça
donc
promet,
ça fait le fil rouge.
Ça promet d'être un bel ouvrage, en tout cas, on vous tiendra informé quand il sera prêt et qu'il sortira. J'ai une question par rapport au fait des archives. Bon, on voit ça comme quelque chose d'historique, mais il faut pas oublier que c'est quelque chose qui a été contemporain au moment M, à l'instant T. Quelle action on peut avoir avec notre quotidien, notre vie contemporaine pour se dire, tiens, ça c'est peut-être quelque chose d'intéressant ou pas à garder, justement, on sait jamais. Moi je sais que j'aime bien garder par exemple, les vivres à Angers, je les mets sous le coude, j'évite de les froisser, je me dis peut-être que dans 30 ans ça intéressera quelqu'un.
Peut-être, mais alors il y a quelque chose qui va scier votre chaise tout de suite, c'est la numérisation. Car ils sont tous numérisés sur Internet, donc vous pouvez les détruire. Sauf que, évidemment, c'est quand même plus agréable parfois de feuilleter un livre papier ou des revues papier. Mais enfin, en principe, ça ne sera pas quelque chose de rare. En revanche, un petit flyer pour parler français du Shabada, peut-être que ça sera plus intéressant. Une petite publicité anodine d'un commerce dans un siècle, ça intéressera plus que le Vivre Angers, puisqu'on l'aura donc numérisé. Ou un objet publicitaire, nos fameux goodies actuels. Voilà, on en a beaucoup, des objets, des souvenirs, des médailles.
Le crayon Erigo, par exemple.
Oui. Donc un petit peu tout. En plus des archives traditionnelles dites administratives et puis des archives privées que l'on peut trouver sur l'histoire des familles.
Ou le badge Radio G, par exemple. Je ne sais pas. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment de venir en chercher un. Ah. En tout cas, si jamais on a des choses chez nous et qu'on des archives de nos parents, de nos grands-parents, qui eux, elles, ont gardé, ont eu ce réflexe-là, on peut les adresser au repère urbain.
Absolument. Alors là, ce sera avec grand plaisir. Donc vous pouvez nous envoyer une proposition sur l'adresse générique des archives patrimoniales, qui est la suivante. J'ai dû la noter quelque part.
Ou elle doit être sur le site internet, j'imagine.
archive.patrimonial@ville.angers.fr, tout simplement.
Et si vous êtes en train de rouler, que vous n'avez pas eu le temps, prenez le temps de vous garer. On va redonner ça, les infos pratiques, dans quelques instants, en fin d'émission. Merci Sylvain Bertholdi. Vous restez avec nous, bien évidemment. On va écouter Festen, One Life, avant de l'entendre, qui va répondre aux questions de Mathéo, et on est toujours sur le 101.5 FM. Festen qui sera du côté du Joker's Pub le mercredi 5 juin prochain, 20h30 il me semble, on va confirmer l'heure dans quelques instants. One Life de Feisten qui est avec nous dans Topette et qui répond aux questions de Mathéo.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Alors Mathéo, tu conseilles aux Angevines et aux Angevins d'aller du côté du Joker's Pub le 5 juin prochain, je crois. Hein.
Exactement, on vient de l'entendre chanter, là on va l'entendre de vive voix. Bonsoir Festen.
Bonsoir Mathéo.
Alors Stéphanie Taillet, de votre vrai nom, vous êtes une artiste choletaise influencée en grande partie par le rock. Le 5 juin prochain, dans le cadre de On Stage, vous allez performer sur la scène du Joker's Pub. L'occasion pour nous de revenir sur une carrière remplie. Le groupe We Need Song, le trio Zago Eye, ou encore le duo Hit, 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 que vous formiez avec Frédéric Desil, constitue votre aventure musicale. Tout ce chemin parcouru, nous vous retrouvons depuis 2021 en solo. Avant de revenir sur ce projet nommé Marée Haute, racontez-nous toutes ces expériences et l'apport conséquent qu'elles ont eu sur votre musique.
Alors, ça va être long. Il y a des choses qui existent encore, qui sont pas du passé. Hit, 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 ça joue encore. We Need Songs aussi.
Okay, c'est disponible sur peut-être les plateformes de streaming également.
Oui, alors Hit, 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 c'est que de la reprise, donc on n'a rien sorti. C'est à voir en live. C'est un concert de, on reprend que des tubes. Donc ça passe, c'est très varié, de Adamo à Nirvana, les Animals, voilà. Et à notre façon, à deux. Et voilà. Sinon, We Need Songs, oui, c'est retrouvé sur les plateformes. Ça, c'est alors oui comme yes, OUI. Et après Need Songs, on a besoin de musique avec un oui, le jeu de mots. Ça s'est retrouvé, oui, sur les plateformes. Ça joue encore. Et puis Festen, qui est mon dernier projet, en tout cas ma dernière création, qui date de 2021.
Vous avez parlé de reprise de Metallica, du rock, c'est votre influence la plus forte.
Nirvana, j'ai dit Metallica, mais ça pourrait.
Bon, bah, j'ai fait un mauvais parallèle.
On peut tout faire, mais on n'en a pas pour l'instant.
Il écoute du rap, Mathéo, principalement.
Non, plus maintenant. J'écoute beaucoup de jazz et de rock, Pierre-Benoît, figure-toi, depuis quelques mois.
Je te poserai des questions à l'occasion.
On fera ça. Comment ce lien avec le rock, il est né chez vous?
Comment il est né? Ben c'est vrai que c'est avec ce premier groupe Zago Eye, j'étais étudiante à Rennes, où j'ai rencontré des personnes et on a formé un trio. Et on a été découverte Printemps de Bourges en 99. Donc on jouait dans les lieux, dans les bars, dans les grandes salles. Mais je crois que j'ai toujours fait du rock, parce que mon premier groupe c'était à 18 ans. Ça s'appelait Apollonia, par rapport à Prince, quoi, en lien avec Prince. Et là c'était déjà du rock, mais c'était du rock garage, on va dire, on était trois filles. Voilà. Guitare, basse, batterie.
Une envie de faire de la musique qui est apparue très tôt chez
vous. Très tôt, ouais.
Du coup, pour quelles raisons? C'était un moyen de s'émanciper, de se libérer de ce quotidien que vous aviez?
C'était assez naturel, en fait. Mon papa faisait de la guitare et on écoutait beaucoup de folk américain, Bob Dylan, J.J. Cale, etc. J'en oublie sûrement plein. Et puis ma grand-mère aussi, qui faisait du piano, de l'orgue, qui jouait à la messe, et du coup je l'entendais répéter sur son piano. Donc j'ai fait du piano très vite, et puis de la basse. Je me suis mis à la basse pour mon premier groupe, à l'âge de 17 ans. Ouais.
Comme vous le dites, vous êtes multi-instrumentaliste. Vous avez parlé de basse, de piano. On vous entend chanter également. En soi, c'est une vraie prise de risque couplée à un talent. Pourquoi ce choix justement de mixer tout ça pour faire votre musique et pas de se focaliser uniquement sur le chant ou que le piano, par exemple?
C'est en fait, je suis juste mes envies, tout simplement. Il y a aucun programme à l'avance dans ma tête. Je continue de faire ma vie avec les envies qui viennent et puis qui me font des créations. Et puis je travaille après pour arriver à ce que j'ai envie de faire, mais j'ai pas de plan du tout.
Toute cette palette, on la retrouve dans ce projet, un 9 titres avec une particularité assez forte. Vous chantez en français et en anglais,
oui,
dans des titres diversifiés, tantôt mélodieux, tantôt puissants. Un projet né du confinement. Racontez-nous l'histoire de cet album.
Eh bien, j'avais envie de créer des nouveaux morceaux, parce que avec mon projet We Need Songs, qui est un projet très rock avec des chansons que en anglais, j'avais envie de me remettre aussi, et j'en faisais chez moi tout simplement des morceaux aussi en français, mais qui allaient pas dans ce répertoire là qui était plus pop que rock. Et du coup, j'ai commencé à faire une maquette avec des nouveaux morceaux en me disant je verrai bien avec qui après je les fais ces morceaux-là. Les musiciens avec qui j'étais étaient moins disponibles parce que ils avaient chacun des choses à faire. Le batteur il a pris un bar, donc il est toujours là pour Winnie the Songs, mais c'est plus difficile. Et puis le guitariste, il est aussi comédien dans un spectacle qui s'appelle Zai 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 Zai, parce que vous connaissez peut-être, c'est un spectacle d'une compagnie de Cholet, mais lui il est angevin. Il s'appelle Phil Deville. Et du coup voilà, j'ai eu envie de monter à quelque chose en me disant je verrai après avec qui je fais. Et puis finalement il y a cette bande avec sur laquelle j'ai mis aussi des sons, pas que des sons d'instruments, mais des sons aussi de mer, enfin de comment on dit ça, des sons
de l'habillage sonore, on entendait une foule sonore. Au début du titre.
Ouais, voilà. Je me suis amusé à mettre des sons un peu étranges ou de l'habillage sonore, ouais. Et puis après est venu le confinement. Alors là, on pouvait plus jouer, donc ça m'a bloqué. Et puis après le premier confinement, en tout cas, je me suis dit peut-être que je peux travailler avec la bande son. Ce sera vite monté, et puis vite je pourrai aller sur scène, parce que j'avais très envie de refaire de la scène. Et là, j'ai fait appel du coup à Tonio Harcourt, qui m'a aidé à fignoler cette bande son. Au départ, c'était juste pour faire un mix, et puis finalement, maintenant, on la compose ensemble cette bande son, et puis c'est un projet qu'on partage. Voilà.
Ces 9 titres, vous allez les performer sur scène le 5 juin au Joker's Pub, ouais, dans le cadre du coup de On Stage. Dans quelle configuration serez-vous ? Est-ce que vous allez être vraiment toute seule sur scène à performer vos titres avec vos basses, votre piano peut-être, et puis votre voix surtout ?
Oui, j'ai déjà fait plusieurs concerts Festen, donc je suis seule sur scène, j'ai un piano et une basse, j'alterne entre les deux, et je déclenche une bande sonore où on entend justement l'habillage. Et puis des batteries aussi, des choses comme ça, mais de moins en moins de choses en fait. On essaye de mettre le plus de live possible là-dedans, mais oui, j'ai aussi une bande son. Et puis je pense qu'on va le faire aussi sur ce concert-là. J'ai des vidéos derrière.
C'est aussi l'occasion de rappeler le principe de On Stage, hein, qui est un programme bien particulier pour ceux qui ne connaissent pas. Festen, qu'est-ce que c'est que On Stage?
Alors, moi, ça va être peut-être
des infos succinct, que vous avez, hein.
Mais c'est un dispositif en tout cas qui est monté par le Shabada pour soutenir et mettre en visibilité en fait des groupes. Je veux pas dire jeunes parce que je suis pas jeune moi, mais des groupes en tout cas qui sont pas récents dans leur musique, ouais, voilà.
Et du coup, vous les avez contactés ou c'est eux directement qui sont venus vers vous en ayant vu votre carrière passer?
Ah non, c'est que ils envoient un appel à un projet. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs dates dans l'année où on peut envoyer. Et puis j'ai envoyé. Et puis j'ai pas été prise sur le premier, mais j'ai été prise là pour le mois de juin.
On va marteler cette date, le 5 juin au Joker's Pub, 20h45, début de la soirée. Le groupe Fuse U se produira aussi sur scène à la même date, entrée gratuite, c'est important de le préciser, mais il vaut mieux réserver, ne sait-on jamais. On reste avec vous Festen, Pierre-Benoît, je vais te redonner la main.
Oui, hop, je la prends, merci beaucoup Mathéo. Alors faut réserver, c'est gratuit, et il faut venir à l'heure du début, hein. Faut pas venir
20h45.
En cours de route.
Non,
c'est pas au choix entre les deux groupes.
Moi je commence, donc
voilà,
j'y tiens. Voilà, encore plus.
Comme ça, il y aura les deux publics qui vont se croiser. Ça promet aussi d'être un beau mélange. Festen, tu restes avec nous, bien évidemment. Bon, il y a toujours Sylvain Bertholdi aussi pour nous dire où est-ce qu'on peut envoyer nos vieux flyers du Shabada justement. Mais avant tout ça, voici l'heure que voilà notre nouvelle chronique qu'on aime bien, la flashette.
Top 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 à la flashette.
Piscine, rendez-vous chez le dentiste ou repas chez mamie. Vous n'étiez pas à l'écoute de Topette hier.
Don't worry. La flashette vous récap l'essentiel.
Avec Angelina.
Ou Franck.
Salut Angelina.
Bonsoir. Et c'est après un week-end plutôt instructif que je reviens avec une flashette mûrie, réfléchie, presque macérée, à l'instar de la philosophique chronique de Tonton Albert. L'émission dernière a débuté avec une nouvelle qui a su me ravir. L'homme à tout faire, ma muse, celui pour qui les gaffes sont innées, a annoncé qu'il prolongeait son service civique d'une semaine. Information intéressante lorsque l'on sait que sans lui, mes chroniques seraient relativement vides. Je vous laisse deviner de qui il s'agit. Pour le petit indice, Pierre-Benoît l'a mentionné tout à l'heure. Nolwenn, de son côté, a exprimé un certain ras-le-bol de la météo.
1 million de retombées sur le territoire.
Oui, Nolwenn, on finit avec la météo peut-être.
Avec la météo. Tonton Albert a ensuite pris le relais pour nous livrer une chronique quelque peu égocentrique, axée sur l'étymologie de son prénom. Ou était-ce une station de ski ? Nous ne sommes pas encore certains d'avoir tout compris en ce qui concerne les Alberts. Bouteilles et cuvées rangées, ce sont Anne Bourrin et François Bovineau qui étaient nos invités de l'émission, afin de présenter les 48 heures de l'agriculture. Si mon idée première était d'opter pour une vanne enfantine sur les noms de famille de Madame Bourrin et Monsieur Bovineau, je me suis finalement résignée. Car si l'on peut qualifier la flachette de simplette, il est inenvisageable de la réduire au même niveau d'humour que celui de notre chroniqueur et animateur Pierre Benoît. Une phrase qui ne me permettra certainement pas de me voir octroyer un véritable bureau. Enfin, comment conclure cette flachette sans revenir sur notre protagoniste phare ? Jeudi soir dernier, Mathéo était visiblement pressé de partir en vacances. Il a donc opté pour une solution radicale, jeter nos invités aux requins pour se délester de ses tâches.
Alors je vais me tourner vers des personnes présentes dans le studio. Julien Ogdé vient d'arriver. Toi, ça te parle ce genre d'événement ? Est-ce que tu vas venir ?
Passe décisive mais risquée, on l'a rapidement remarqué.
Elle n'a vraiment rien suivi.
Je reposais la même question, c'est ça?
Bref, encore une fois, un grand merci à Mathéo.
La petite flashette de Topette. Merci beaucoup Angelina, qu'on retrouve tous les jours pour faire un petit résumé comique, apprendre au second degré. Bien évidemment, Mathéo, c'était pas vexé quand même.
Ah, pas du tout. Moi, ça me régale, comme on dit.
Ah, bah écoute, un vrai régal aussi que tu continues avec nous tout au long de la semaine dans Topette. Juste un petit clin d'œil quand même, Angelina. Tu te moques, mais au niveau des prénoms, c'est Anne Bourreau, hein, c'est pas Anne Bourreau.
Bourreau, pardon, excusez-moi. Voilà.
Et puis c'était pas Jérémy, c'était Jérôme aussi pour la flashette précédente.
Je me suis dit, personne l'avait remarqué, je l'ai souligné.
Et non, ça ne passera pas inaperçu. Merci en tout cas, on te retrouve demain. Angelina, on est toujours avec nos deux invités de ce soir. Alors on va reprendre dans l'ordre chronologique inverse. On était avec toi, Festen, juste avant la petite flashette. Qu'est-ce qui est important de retenir sur l'âme de ton projet sur cette date? Bon, voilà, il y a la date de mercredi prochain, du coup, on stage au Joker's Pub, en partenariat avec Le Chabada, Radio G, Radio Campus Angers également. Qu'est-ce qui est important de retenir sur l'âme de ton projet, ce que tu veux porter d'un point de vue artistique, musical, mais aussi peut-être, il y a peut-être aussi un message derrière, une certaine vision de ce que doit être la musique comme toi et l'art comme tu veux le défendre. On te pose des questions complexes dans Topette, hein.
En 30 secondes. Non, mais c'est vrai que moi, enfin, ce que je fais la plupart du temps dans mes morceaux, c'est essayer de transmettre des émotions. Donc voilà, je raconte pas des histoires très précises, mais je raconte des sentiments, des sensations précises. Et c'est, voilà, faut se laisser porter sur cet album qui s'appelle Marée Haute et sur toutes les émotions qui sont suggérées.
Bon, voilà. Et ben en tout cas, à découvrir, Festen, le projet solo pour ceux dont on parle. Il y a d'autres choses te concernant, mais ça, tu auras l'occasion de revenir quand tu veux dans Topette ou dans d'autres émissions. Ça dégouline dans le cornet, par exemple, qui sera dans quelques instants à l'antenne à partir de 19h. Merci beaucoup d'être passé ce soir,
merci.
Festen. Sylvain Bertholdi, toujours avec nous aussi. Alors, on a vraiment une toute petite minute pour récapituler d'un mot. Angers Patrimoine, les archives, les expositions en cours, le vélo, ça arrive dans une dizaine de jours du côté du rue. Hein.
Voilà, alors disons plutôt le temps du montage vers le 23 juin.
Le 23 juin à peu près, oui. Voilà. Dans une dizaine de jours, ça arrête pour celle qui est en cours et ensuite ça repart sur le vélo. On peut vous retrouver alors via des ouvrages comme Les Premières Fois à Angers qui est déjà paru ou Angers Mémoire d'une ville qui va paraître prochainement, mais aussi dans le Courrier de l'Ouest, il me semble.
Enfin, oui, dans une page histoire dominicale, donc voilà, tous les dimanches, avec des rubriques différentes. Une photo mystère, le ça s'est passé le, l'actu des archives, un article de tête, des photos.
Et si on a des petits badges Radio G de 1900, de Radio Gribouille de l'époque, par exemple, et qu'on souhaite non pas s'en débarrasser, mais en faire profiter, par exemple, les archives d'Angers.
Ben voilà, ça nous illustrera un sujet sur les radios angevines.
Exactement, donc allez alimenter aussi. Si vous avez des archives chez vous, vous pouvez par mail ou tout simplement sur place. Les infos pratiques concernant le repère urbain, les horaires d'ouverture, je ne sais pas si on les a sous le coude.
Alors nous, les archives sont ouvertes du mardi au vendredi de 13h à 17h.
Et ben voilà qui est dit. Merci beaucoup d'être passé, Sylvain Bertholdi, ce soir
merci
dans Topette, directeur des archives patrimoniales. Et puis j'ai oublié de te poser la question, Festen, avant qu'on se quitte quand même. On écoute où? Sur les plateformes de streaming, partout, en YouTube?
Oui, on peut retrouver partout. Donc Festen, c'est un anagramme de Stéphanie. Donc on peut retrouver, c'est P-H-A-Y-S-T-E-N.
Tout simplement.
Et ça, on retrouve.
Merci beaucoup d'être passé aussi dans Topette ce soir. Nolwenn, un petit mot de la fin?
Topette.
Topette, Nolwenn qui sera demain sur le parcours de la flamme olympique. Oui.
On aura un reportage sur la flamme olympique.
Voilà, qu'on vous livrera mercredi prochain. Nous, on se retrouve donc demain à 18h10 pour une édition certainement un peu plus axée sur justement cette flamme olympique qui vient ici à Angers, qui est déjà en Anjou, je crois, à partir de ce soir. Dans quelques instants, ça dégouline dans le cornet avec Philippe. Salut Philippe, on parle de quoi dans ça dégouline dans le cornet tout à l'heure?
Ce soir, on reçoit les Vilains Clowns pour leur dernier album.
Ah, et ben voilà qui va faire plaisir à nos auditeurs fans de rock aussi. Allez, à demain, Topette.
101.5